France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Il était l'un des derniers géants du cinéma français, des valseuses à buffet froid, en passant par tenue de soirée, on vient de l'apprendre. Le réalisateur Bertrand Blier est décédé ce matin. Il était âgé de 85 ans. Dans le reste de l'actualité, on s'intéressera à la possible contribution de certains retraités en France au financement de la protection sociale. Enfin, depuis hier, le retour tonitruant de Donald Trump à la Maison-Blanche, comme les irruptions de son fidèle allié Elon Musk nourrissent les pires inquiétudes, qu'il s'agisse de sa vaste offensive anti-immigration, mais aussi le front des nombreuses guerres ouvertes, en particulier contre le climat. Il avait remporté donc l'Oscar du meilleur film étranger. C'était en 1979. Préparez vos mouchoirs. On l'a donc appris il y a quelques minutes. Bertrand Blier est décédé ce matin. On va vous permettre de vous installer. Chloé Leprince, vous venez d'arriver. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Adepte d'un humour noir et cru, le maître du cinéma provocateur, donc, avait marqué des générations avec ses films subversifs.
Oui, subversifs. Le premier grand succès commercial, c'est 1974 et c'est ça.
On n'est pas bien ?
Si.
Paisible ? À la fraîche ? Décontracté du gland ? Et on bandera quand on aura envie de bander ?
Alors vous aurez reconnu les valseuses, Patrick Devers, Gérard Depardieu, Miu Miu. Bertrand Blier, c'est un enfant du cinéma d'ailleurs, il avait commencé en dirigeant son propre père, Bernard Blier, et c'était en 1967, ça s'appelait « Si j'étais un espion ». Comme cinéaste, les débuts de Blier resteront associés à de grands rôles masculins, on vient de l'entendre, hein, cet extrait est iconique, des grands rôles masculins, quitte à être classés du côté d'un cinéma viril au bar. Jean-Pierre Marielle, 4 films en tout, Jean Rochefort, Devers, Depardieu encore, il collaborera 8 fois avec Depardieu, lui-même campera aussi certains rôles dans les années 80, pas moins de 5 films de Bertrand Blier sortent en salle, une décennie qui finit avec Trop belle pour toi et un grand rôle pour Josiane Balasko. Les années 90 le verront évoluer, davantage de rôles féminins et Anouk Grimbert qui devient sa grande actrice, ainsi qu'il qui avait démarré avec Merci la vie en 1991. Cinéaste subversif, vous le disiez Thomas, en 2023 on le retrouvait parmi les signataires de la tribune N'effacez pas Gérard Depardieu.
Merci Chloé Leprince. Alors Bertrand Blier, c'était évidemment une direction d'acteur exceptionnelle, même si en l'occurrence il ne se contentait pas de travailler avec les stars, il aimait aussi révéler les talents. Je vous propose de le réécouter en 2010, il était l'invité de l'émission Radio Libre sur France Culture, où il évoquait justement ce don qu'il avait pour repérer les grands acteurs.
Je suis né au milieu des grands acteurs. C'est-à-dire que je les ai fréquentés. Mon père en était un déjà, donc il fallait se le taper tous les jours. Et quand il arrivait, quand il jouait par exemple un assassin au théâtre et qu'il rentrait le soir, je pense au Crime parfait qu'il a joué, il rentrait le soir, c'était un assassin qui rentrait, quoi. C'était pas le même papa que quand il jouait une comédie d'André Roussin ou de Marcel Achard. C'est pas du tout.
Et à ce point-là. Donc,
ah oui. Tout ça, ça je l'ai vécu. Et alors, je peux en témoigner, mais c'est...
Ça veut dire que vous le reconnaissez sur des débutants aussi? C'est-à-dire, vous voyez...
Non, mais je vis pas avec eux grâce au ciel, je ne suis pas chez eux quand ils rentrent.
Vous avez quand même un radar, quelque chose qui fonctionne quand vous rencontrez Depardieu, Devers, Miu Miu, Isabelle Huppert, Anouk Grimbert et Carole Bouquet. Vous voyez qu'il y a cette étoffe-là?
Oui et non, enfin, on ne sait pas... Oui, il y a un nez. Les metteurs en scène qui aiment les acteurs, ils ont un nez. Ils voient, puis un regard. On voit des choses. Je me souviens quand je faisais Il ne les reconnaît pas, j'allais dans des cours de récréation chercher des personnages. Et sur une cour de récréation dans laquelle cavalent 400 mômes, il y en a un. Et on le voit, quoi. On le voit, on le repère. On dit, amenez-moi celui-là, là. Et voilà.
Voilà, Bertrand Blier, donc invité d'Arnaud Laporte, c'était en 2010 sur France Culture. On reviendra évidemment dans notre édition de 18h sur la disparition, donc aujourd'hui à l'âge de 85 ans, du réalisateur français. Au deuxième jour de l'ère Trump, deuxième version de la démocratie américaine, est-elle déjà un point de bascule, comme si les saillies néo-impérialistes hier du 47e président des États-Unis, héros du suprémacisme blanc et prêt à casser l'ordre du monde, ne suffisaient pas, pas plus que les places de choix qu'il avait pris soin de réserver aux représentants de l'extrême droite venus l'ovationner lors de sa prestation de serment. Voilà que la fête organisée dans la foulée de la cérémonie aura été marquée par une scène pour le moins troublante lorsque son fidèle bras droit, Elon Musk, après s'être tapé la poitrine avec la main, a fini par tendre le bras, paume ouverte, avant de répéter ce geste dans un mouvement controversé que beaucoup ont vite fait de rapprocher du salut nazi. Cécile de Kervasdoué, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors dès ce matin, en réponse à la polémique, le patron de Tesla et SpaceX a réagi par l'ironie en suggérant à ses détracteurs de trouver, je cite, de meilleurs coups tordus et avant de rappeler malgré tout les raisons objectives qui poussent aujourd'hui à s'interroger sur le sens de ce geste déconcertant. Première précision, Cécile, ce qui apparaît clairement aux yeux de beaucoup comme un salut nazi est en réalité au départ un salut américain.
Et oui, ce salut réutilisé par les fascistes de Mussolini a bien avant cela été utilisé à travers toute l'Amérique par des écoliers, mais aussi lors de réunions publiques et même au Congrès pour saluer le drapeau américain, et ce à partir de la fin du 19e siècle. Ça s'appelait le salut Bellamy, du nom de celui qui avait écrit le serment d'allégeance au drapeau et qui avait pensé y ajouter ce salut, inspiré lui du serment des Horaces, la toile de David. Et c'est ainsi que vous pourrez trouver de nombreuses photos d'archives avec des enfants américains, le bras droit tendu, à la manière d'un salut nazi. Le geste n'a jamais fait polémique jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où le gouvernement Roosevelt a préféré le remplacer par une main sur le cœur, afin de ne pas être récupéré par la propagande nazie.
Alors, en dépit de ce rappel historique, que l'homme d'affaires américain n'a d'ailleurs pas jugé bon d'invoquer pour esquisser une quelconque justification, il existe aujourd'hui, Cécile, dans le parcours même d'Elon Musk, un certain nombre de faits qui laissent à penser que ce geste ne serait pas seulement maladroit.
Oui, car ce geste, inconscient ou non, vient rappeler qu'Elon Musk est un homme d'extrême droite. Se présentant comme un dark MAGA, c'est-à-dire un Trumpiste extrême, il affiche depuis l'été son soutien à l'AFD en Allemagne, aux Frères d'Italie ou à Reform UK au Royaume-Uni. Il multiplie aussi ses soutiens sur son réseau social X à des propos racistes, antisémites, sexistes, homophobes ou complotistes. Son entreprise Tesla a d'ailleurs été condamnée en 2021 pour discrimination et violence raciale à l'encontre d'un employé et l'agence de l'État de Californie poursuit son usine de Fremont pour des violences raciales avec des plaintes de salariés qui racontent les croix gammées, les menaces et les nœuds coulants affichés sur les bureaux, dans les toilettes, dans les ascenseurs. Des pratiques qui rappellent l'apartheid d'Afrique du Sud où Elon Musk a vécu jusqu'à ses 17 ans. Un pays qui a aussi forgé l'idéologie libertarienne embrassée par Elon Musk qui, comme ses proches milliardaires sud-africains, sont opposés à toute intervention de l'État dans l'économie et plus largement à l'État de droit.
Merci Cécile de Kervasdoué. Alors, seule certitude au lendemain de son discours sombre et revanchard, Donald Trump a choisi d'attaquer cette deuxième journée avec la volonté farouche d'appliquer à la lettre son programme électoral, quel que soit d'ailleurs le réalisme de ses ambitions, à commencer par la lutte contre l'immigration clandestine. Toutes les entrées illégales seront immédiatement stoppées et nous commencerons à renvoyer des millions et des millions d'étrangers criminels là d'où ils viennent, à marteler des hier le président républicain avant de préciser « je vais envoyer des troupes à la frontière sud pour repousser l'invasion désastreuse de notre pays ». Fin de citation. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Tamara Boussac, maîtresse de conférence en études nord-américaines à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Bonjour madame.
Bonjour.
La lutte contre l'immigration était déjà l'un des principaux motifs de la première campagne et du premier mandat donc de Donald Trump. Jusqu'à quel point les choses sont-elles différentes aujourd'hui, que ce soit peut-être dans la rhétorique déjà, mais aussi les moyens dont il dispose à présent?
Alors oui, c'est vrai que c'était déjà une marque très forte du premier mandat de Trump, mais on s'est bien rendu compte pendant la campagne cette année que c'était un sujet encore plus central pour le second mandat de Trump. On se rappelle notamment de déclarations très violentes, très méprisantes à l'égard de migrants haïtiens qui soi-disant mangeaient les chiens et les chats des honnêtes citoyens américains. Donc je pense que certes, il y a un style extrêmement hyperbolique de Trump qui parle de millions d'expulsions dans un temps assez court. Ça peut sembler assez irréaliste, mais je pense qu'il faut vraiment prendre au sérieux tout ce que dit Trump. Je pense que c'est vraiment une leçon qu'on peut tirer des dernières années, non seulement parce qu'effectivement, il va avoir voilà, déclaré cet état d'urgence à la frontière sud, hein, donc à la frontière avec le Mexique, ce qui donne au pouvoir exécutif, en fait, énormément de marge de manœuvre pour mettre en œuvre ce programme. On parle, on l'a très bien vu hier dans le discours d'investiture, d'une militarisation accrue à la frontière sud des États-Unis. Donc je pense que beaucoup de gens se préparent effectivement à ce que beaucoup d'expulsions aient lieu, et en fait concrètement ça va vraiment dépendre de sa capacité à mettre en œuvre donc ce projet en appui avec les États, puisque ce sont au niveau des États que les forces de police et d'immigration peuvent vraiment agir sur la question, et sachant que les États qui sont limitrophes du Mexique de fait sont très largement acquis au républicanisme et au trumpisme.
Malgré tout, quelles sont, je me permets de vous couper, quelles sont aujourd'hui les voies de recours possibles au décret donc qu'entend prendre Donald Trump? En clair, est-ce que les villes ou les États, justement, ont la possibilité de s'opposer au projet de l'État fédéral?
Alors oui, c'est possible, hein, parce que le 10e amendement de la Constitution des États-Unis qui régit les relations entre l'État fédéral, les villes et les États, en fait, énormément de pouvoir à l'échelle des États. Donc en fait, ce qu'on a pu voir, le concept des villes sanctuaires pendant le premier mandat Trump, qui vont aussi se mobiliser là pendant son second mandat, en fait, le pouvoir de résistance ou de nuisance que les villes peuvent mettre en œuvre, c'est tout simplement une non-coopération. C'est-à-dire de ne, par exemple, demander aux forces de police locales, puisqu'aux États-Unis, la police est avant tout locale, de ne pas mettre en œuvre le programme, de ne pas arrêter les immigrés illégaux, par exemple, et aussi de ne pas transmettre les infos afférentes voilà, au statut des personnes qui travaillent, qui se trouvent aux États-Unis. Donc ça, effectivement, c'est un pouvoir de blocage, et je pense qu'il y a aussi des moyens juridiques également. Hein, en fait, en 2020, la Cour suprême des États-Unis devait se prononcer sur la question des villes sanctuaires et sur la question voilà, de la question migratoire dans les relations entre l'État fédéral et les villes. Mais cette audience n'a pas eu lieu parce que le président Biden l'a finalement annulée. Mais effectivement, en cas de conflit, de litige entre l'État fédéral et les États fédérés et les villes, c'est effectivement des cas qui peuvent aller jusqu'à la Cour suprême.
Une dernière question, est-ce que l'obsession anti-immigrée de Donald Trump pourrait se retourner éventuellement contre les intérêts économiques des États-Unis?
Oui, alors c'est vrai que là on voit une espèce de diptyque, on va dire protectionnisme et expansionnisme, hein, qui se met en place dans la rhétorique de Trump depuis plusieurs mois. C'est vrai que c'est l'un des arguments qui va être mis en avant, notamment par les démocrates ou dans les villes sanctuaires, que l'économie informelle est vraiment importante aux États-Unis et que de nombreux commerces par ailleurs ont besoin de la main d'œuvre immigrée pour pouvoir fonctionner. Après, c'est vrai que dans le logiciel Trumpiste, effectivement, ce sont des emplois qui devraient être plutôt réservés à des Américains. Et le fait est que les États-Unis ont une longue histoire de réguler l'immigration en fonction de leurs besoins économiques. Donc, je pense que c'est pas forcément la première priorité de Trump que de poser la question migratoire en termes économiques.
C'est bien compris. Merci Tamara Boussac, maîtresse de conférence en études nord-américaines à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Donald Trump a donc démarré fort hier sa première journée de mandat avec la signature de plusieurs décrets exécutifs, la lutte contre l'immigration clandestine, mais pas seulement.
Non, on pourrait citer pêle-mêle la révocation de deux textes signés par son prédécesseur, l'un prônant l'équité raciale dans les communautés défavorisées, puis l'autre combattant les discriminations basées sur le genre ou l'orientation sexuelle, mais aussi sa décision de quitter l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, ou bien encore son projet destiné à maximiser la production pétrolière et gazière. Enfin, autre coup dur pour toujours la diplomatie climatique, Donald Trump a confirmé sa promesse de vouloir retirer pour la seconde fois les États-Unis de l'accord de Paris. Véronique Roberod, bonjour.
Bonjour.
Dans quelle mesure cette décision peut-elle, Véronique, impacter la lutte contre le changement climatique?
Alors, cette décision de Donald Trump, en totale contradiction avec les impacts donc, climatiques que vit la planète, États-Unis compris, avec en ce moment une partie de la Californie ravagée par les feux, eh bien ceux qui sont impliqués dans la lutte contre le changement climatique tentent quand même ce matin de la minimiser. Le réseau Action Climat rappelle que Donald Trump avait déjà, lors de ce premier mandat, vous l'avez dit, retiré donc les États-Unis de l'accord de Paris, mais il n'avait pas réussi à faire échouer la coopération internationale. Aucun pays n'avait emboîté le pas des États-Unis en 2017. Le contexte est un petit peu différent en 2025. Les pays de la négociation climat qui se retrouvent au moment des COP, pourrait bien cette fois, au moment où on fête les 10 ans de l'accord de Paris ou cette année, eh bien, tous les pays doivent faire beaucoup plus, eh bien, tenter plutôt de faire le minimum. Le contexte géopolitique a aussi considérablement évolué ces dernières années avec une montée des populismes, des difficultés budgétaires qui placent le climat au second plan des économies mondiales. D'un point de vue strictement américain, même si Trump ne pourra pas stopper le développement des énergies propres aux États-Unis, eh bien, les rejets carbonés des USA devraient reprendre de plus belle avec son envie, il l'a dit plusieurs fois, de forêt. L'engagement des USA dans le cadre de l'accord de Paris à réduire ses émissions de CO2 entre 61 et 66% d'ici à 2035 ne tient plus, balayé, c'était déjà mal parti. Et la relance de la production de pétrole et de gaz s'annonce massive dans le cadre du décret d'urgence énergétique nationale signé hier par Donald Trump.
Merci Véronique Robérotte.
Troisième jour de trêve à Gaza.
Mais pour combien de temps encore après un premier échange d'otages du Hamas contre des prisonniers palestiniens? Les prochaines libérations ne sont pas attendues avant samedi prochain. Quant à la suite du calendrier, elle demeure encore incertaine. Les termes de la deuxième phase, celle qui doit voir la fin définitive de la guerre, doivent être négociés au cours des 6 semaines à venir. Or, dès hier, Benjamin Netanyahou a déclaré vouloir s'assurer, je cite, que la bande de Gaza ne présente plus jamais de menace pour Israël. Manière de rappeler que si son gouvernement, sous la pression des États-Unis, mais aussi d'une partie de son opinion publique, a été contraint de négocier avec le Hamas, la question de l'avenir du mouvement islamiste dans l'enclave que le Premier ministre avait juré d'éradiquer reste entière, non seulement en tant qu'organisation, mais plus encore sans doute en tant qu'idéologie. Pour le reste, Israël peut d'ores et déjà se réjouir du retour tonitruant du républicain à la Maison-Blanche. Pourquoi ? Parce qu'hier, Donald Trump a décidé d'annuler purement et simplement les sanctions prises par l'administration de son prédécesseur démocrate contre les colons israéliens accusés d'avoir commis des violences contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée. C'est une correspondance à Jérusalem signée Thibault Lefebvre.
C'était une des seules mesures contraignantes de Joe Biden vis-à-vis d'Israël en février dernier, et sans doute pour calmer sa base électorale alors qu'il était encore candidat. L'ancien président a signé un décret imposant notamment des sanctions financières et des limitations dans les déplacements à des colons violents accusés de voler des terres par la force aux Palestiniens. 17 individus et 8 entreprises ou associations ont été ciblés et le décret a été prolongé d'un an la semaine dernière avant donc d'être annulé hier. Les défenseurs de l'occupation applaudissent et notamment leur leader, le ministre des Finances Bezalel Smotrich, qui a remercié Donald Trump pour sa décision juste. Une décision qui intervient dans un climat très tendu en Cisjordanie occupée. Il y a des affrontements tous les soirs depuis une semaine. Et puis la colonisation ne s'est jamais autant accélérée. L'année dernière, une 60aine d'avant-postes ont été construits illégalement par des colons, du jamais vu depuis le début de l'occupation en 1967.
La question en France, et notamment celle-ci, comment faire contribuer certains retraités au financement de la protection sociale? Le Sénat propose de faire travailler les salariés 7 heures de plus par an gratuitement pour combler le déficit de la Sécu. La ministre du Travail estime, elle, que cet effort peut aussi porter, je cite, sur les personnes retraitées qui peuvent se le permettre. Je pense que ça ne doit pas concerner tous les retraités. C'est peut-être 40% des retraités, précise-t-elle. Wafia Kenich, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'aujourd'hui, les retraités participent déjà suffisamment à l'effort collectif pour financer donc la protection sociale?
Alors, ce qui est documenté aujourd'hui, c'est la participation des actifs. Le Conseil d'orientation des retraites est clair dans ses rapports successifs. Les salariés et les entreprises sont déjà très largement mis à contribution. L'idée serait donc de modérer la croissance des pensions perçus par les retraités, stopper ou baisser l'indexation des pensions à l'inflation. Une décision que les politiques refusent de prendre, considérant dans le discours, en tout cas systématiquement, les retraités comme pauvres. Patrick Aubert, économiste à l'Institut des politiques publiques.
Le discours un peu simpliste de dire tous les retraités sont complètement, on peut absolument envisager aucune baisse de pouvoir d'achat, il est bien sûr trop simpliste. Puis aussi dans le discours, en fait, on fait comme si... Du coup, une fois que les gens étaient partis à la retraite, c'est un espèce de droit absolu, on peut plus rien faire, il faut garantir le pouvoir d'achat. C'est pas le cas. On a un système qui est basé sur la solidarité entre les générations. Bah, la solidarité, ça peut aller dans les deux sens, hein. Les actifs vers le retraité, et voilà. Et on peut pas considérer, en tout cas par principe, de façon absolue, que une fois les gens partis à la retraite, leur niveau est garanti jusqu'au bout et ne peut pas baisser. Ça fait partie de l'équation, ça fait partie des choix, éventuellement, de modérer la croissance des retraites si on pense que nécessaire.
En revanche, envisager une hausse des cotisations des salariés est bel et bien sur la piste du gouvernement. Une piste du gouvernement. Pourtant, certains actifs ont des salaires bien inférieurs aux revenus des retraités les plus riches. Des pensions du régime obligatoire qui peuvent aller jusqu'à 4 000 euros. Par ailleurs, pour l'essentiel, les retraités fortunés le sont essentiellement du fait d'assurances privées et de leur patrimoine.
Merci Wafia Kenich. Et puis je vous rappelle donc le titre principal, on l'a appris ce matin, la disparition du cinéaste de la provocation Bertrand Blier, lequel revendiquait vulgarité et mauvaise éducation. Le réalisateur était âgé de 85 ans, on y reviendra évidemment dans notre prochaine édition à 18h. On termine rapidement avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par le retour des éclaircies sur la majeure partie du territoire, à l'exception de la façade atlantique. Quant aux températures, elles seront comprises entre 3 et 12 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet à 18h. Donc, vous retrouverez Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.